la musique. C'est mais en Enrico, fait, je sais pas.
Oui, mais il y a des choses. Moi aussi, en vieillissant, il y a des choses qui remontent. Ah, je sais pas, mais évidemment la bouffe, évidemment un tempérament, la bouffe, la Méditerranée, le soleil, l'huile d'olive. Je sais pas. Voilà, je suis un séfarade, quoi. Ça, ah, si je suis un séfarade, ça veut dire que je suis un méditerranéen. Je suis pas un ashkénaze. mais qu'est-ce que c'est d'autre? Je sais pas. C'est pas forcément. Quelque chose de plus important que ça. Juif, oui, juif, c'est important, mais que même si j'étais, on dit que les Ashkénazes sont les meilleurs amis des juifs.
On dit, certains disent.
Et inversement. Bon.
Et inversement.
Mais non, je suis juif. Séfarade, c'est à côté, quoi.
Merci Frédéric. On se retrouve dans un instant pour la suite des enfants de la République.
Radio J. Écoutez Radio J, il est 9h. Radio J.
Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Radio J.
Radio J.
On vient de passer les premiers jours de Pessah. Pessah, ça vous parle?
Bien sûr que ça me parle. Je suis sorti d'Égypte.
Vous êtes sorti d'Égypte.
Je suis sorti d'Égypte.
Elle était dure cette année à traverser l'Égypte.
Ça compte.
On va en reparler. Ouais. Ça a été dur. Charlotte Gainsbourg, la femme avec qui vous partagez la vie depuis 33 ans, est actrice, chanteuse. Votre fils Ben a joué avec vous dans un rôle dans le film Les Choses Humaines, sorti en 2021. Il y a quoi? C'est un clan, une tribu, Attal, ou pas?
Non, je crois pas qu'il y a c'est pas une tribu, mais moi, quand je fais des films, je cherche autour de moi les gens avec qui j'ai envie de travailler. Voilà, donc il y a plein de gens avec qui j'ai envie de travailler, mais il y a aussi ma femme et mon fils. Voilà, et quand j'ai lu ce livre de Karine Thuil, qui était l'histoire de deux jeunes gens, un garçon et une fille, tout de suite j'ai pensé à mon fils. Voilà. Et j'ai eu envie de faire ça avec lui, comme j'ai envie de refaire un film avec lui, parce que j'ai envie de le filmer, parce que je le trouve complexe, beau, violent. C'est un acteur du cinéma, quoi, pour moi.
Donc là, vous dites, vous mettez à la place de vos parents, lui, il faut qu'il soit acteur.
Ah non, je me suis pas dit, il faut qu'il soit acteur.
Il
avait envie d'être acteur. Et puis il avait déjà. L'acteur avant de faire ça. Donc, moi, je vais pas tourner avec ma fille qui veut pas être actrice. Voilà, sinon j'aurais pu prendre ma fille.
Elle veut faire de grandes études, c'est ça?
Elle veut faire de la musique. Voilà, j'aurais aimé qu'elle fasse de grandes études, elle aussi. Moi, je rêve d'avoir un fils ou une fille médecin. Mais bon, apparemment, je sais pas.
C'est pas bien parti.
Il faut que j'en fasse un autre. Mais c'est un peu tard pour moi, je crois.
Un peu tard, oui. Ouais. Dites-moi, les Juifs et la paranoïa, c'est fréquent, ça vous parle ou pas?
On dit qu'on est parano, mais enfin, on a toutes les raisons de l'être, quand même.
Ouais. Les Juifs et le communautarisme?
Oui.
Ouais. Et un fondamentalisme juif?
Probablement. Enfin, je réponds comme ça, mais voilà. Ouais. Probablement, mais enfin, c'est pas... Oui, il y a probablement des gens ultra-religieux, ultra, il y a des ultras de partout, donc il y en aurait chez nous aussi.
Et ça vous gêne ou pas?
Bien sûr que ça me gêne.
Parce que j'avais vu une déclaration de vous il y a quelques années, à Arets, j'ai pas envie, c'est pas si récent, il y a un ou deux ans, j'ai pas envie qu'Israël devienne l'Iran.
C'est ça, c'est que en fait, quand on a des gens ultra-religieux, etc., tout d'un coup, c'est Dieu qui gouverne, quoi. Et moi, j'ai pas envie d'être gouverné par Dieu. Dieu, c'est une histoire intime. Si on a envie de croire, on a le droit de croire, mais on peut pas m'imposer des croyances.
D'ailleurs, vous croyez ou pas?
Je sais pas. J'aimerais bien.
Dieu seul le sait.
Dieu seul le sait, voilà. Non. Comme je suis de nature optimiste, j'ai envie de me dire qu'après ça, il y a autre chose.
Ouais.
C'est un rêve, j'aurais pas envie de...
Autre chose, revoir ceux qui sont...
Non, c'est pas forcément revoir ceux, parce que... Évidemment, revoir ceux. Je sais pas dans quel terme, mais j'espère qu'il y a, je sais pas, qu'il y a quelque chose, qu'on va comprendre des choses, qu'on va vivre encore, traverser quelque chose. Je sais pas. Donc forcément, se dire qu'on finit dans le rien, dans le néant, d'où on vient d'ailleurs probablement. C'est une chose que j'admets aussi. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais donc, quitte à être ici et à me dire qu'il y aurait éventuellement quelque chose, voilà, je préférerais cette option-là, quoi. Donc, j'ai envie de croire. Après, de croire en obéissant à un tas de choses comme ça, j'en suis pas là.
C'est-à-dire la religion.
Ouais, la religion.
Hein, c'est compliqué.
C'est compliqué pour moi. C'est pesant, même si je trouve que c'est très très beau. La foi. Moi, j'ai pas de. Il m'est arrivé de rencontrer des gens religieux, des gens qui croient, qui sont extraordinaires. Et puis d'autres.
Savants, quoi.
Oui.
Part.
Et d'autres. Et d'ailleurs, ils croient, mais ils connaissent beaucoup de choses. Pas forcément que la Torah, quoi.
Ouais, ils sont ouverts
sur le
monde.
C'est les gens obtus qui nous embêtent.
Qui sont justement fermés.
Exactement.
Ils sont pas ouverts sur le monde.
Exactement.
C'est pesant d'être juif et d'être vu comme juif par les autres.
Bah, est-ce que vous connaissez un juif qui va bien en ce moment, vous?
On va en parler.
Demandez si c'est bon. Oui, mais on va en parler, on va en parler. On va en parler, vous me posez des questions qui parlent que de ça, et à chaque fois, vous me dites, on va en parler.
C'est
oui.
La chimie.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est pesant d'être juif.
Ouais, ouais.
Ça pourrait ne pas l'être.
Ouais.
C'est pas obligatoire que ce soit pesant, mais ça l'est. Ça veut dire, c'est pesant de vivre en diaspora, c'est pesant de vivre en Israël. Est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où un juif peut vivre tranquillement, sans penser qu'il est juif, sans que ça lui pèse? Bah, pour l'instant, non.
Alors, vous êtes Sabra, puisque vous êtes né en Israël. Hein, est-ce que ce fruit, c'est pas un peu vous, Yvan Attal? C'est-à-dire, une douceur intérieure et piquant à l'extérieur.
Pourquoi c'est dans ces termes?
Bah parce que c'est ça le sabra.
Ah bon, c'est ça le sabra.
Ouais. Vous savez, ça pique. Il y a les petites épines et
ouais,
puis.
Bah,
non, c'est pour ça qu'on dit que les Israéliens, c'est ça. Pour ça qu'on les appelle les sabra.
C'est tendre à l'intérieur et ça pique à l'extérieur.
Ouais. C'est vrai ou pas?
Bah, je sais pas. Moi, je suis tendre à l'intérieur, mais je suis tendre à l'extérieur aussi. Voilà.
C'est une question bonne.
En plus, quand, là, bon, je pique un peu, mais bon, voilà.
Alors, et vous avez gardé des liens avec Israël?
Absolument.
Ah oui, qu'on y arrive là.
Bah, j'ai de la famille.
Ouais.
J'ai de la famille en Israël.
Ouais.
Et c'est le pays où je suis né.
Ouais.
Ça veut dire que même si je considère réellement, vraiment, complètement que mon pays, c'est la France, je suis quand même né en Israël. Ça fait partie de mon histoire.
Vous avez un passeport israélien?
Oui.
Oui.
Oui. J'ai un passeport israélien depuis quelques années aujourd'hui, parce qu'à chaque fois que j'allais en Israël avec mon passeport français, on m'emmerdait.
Ah oui,
oui.
Né à Tel Aviv.
Oui, ça leur posait problème.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait l'armée?
Exactement, voilà. Ça leur posait problème. Donc à chaque fois que j'allais en Israël, jusqu'à ce qu'un jour on me dise non, mais fais un passeport israélien, tu n'auras plus de problème. J'ai fait un passeport israélien et je n'ai plus de problème.
Et vous en êtes fier? Quelque part?
Mais oui, je suis fier. Bien sûr que je suis fier. Qui n'est pas fier du pays dans lequel il est né? Pourquoi il faudrait renier quoi que ce soit? Pourquoi il faudrait ne pas être fier?
Bah, vous savez, les Juifs, c'est compliqué. Moi, je suis né en Algérie.
Oui.
Est-ce que je suis fier de l'Algérie? Je sais pas.
Mais est-ce que vous êtes algérien?
Je suis français.
Voilà, vous n'êtes pas algérien. Moi, je suis israélien. Vous êtes fier d'être français?
Voilà.
Bah, c'est pareil.
Est-ce que vous ressentez quand même... qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en Israël? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous y êtes allé?
En fait, j'aime bien Israël de loin, j'avoue. J'aime bien Israël de loin.
Pas vous y allez souvent?
Non, j'y vais pas très très souvent. J'y suis allé... Alors quand je jouais le 7 octobre, j'étais au théâtre. Ça a été évidemment terrible de devoir aller jouer une comédie tous les soirs alors que j'avais pas du tout envie de rigoler. Mais en même temps, ça m'a rendu service parce que ça me permettait de rigoler tous les soirs. Mais dès que j'ai fini la pièce, j'ai eu envie d'y aller. J'ai eu envie d'aller voir. J'ai eu envie d'aller voir ce qui s'était passé. Donc je suis allé en Israël. La dernière fois que j'étais allé en Israël, c'était peut-être 2 ans avant.
C'est pas l'anniversaire de votre épouse, de votre femme?
Oui, j'y suis allé, mais ça tombait... Son anniversaire tombait pendant l'été où on était invité au Festival de Jérusalem où mon film Les choses humaines était présenté. Donc j'étais allé 2 ans avant. Et je pense qu'avant ça, j'étais allé 6, 7, 8 ans avant pour tourner. Ils sont partout. Mais je vais pas en Israël, en fait, pour aller m'amuser. J'ai pas d'appartement. J'ai pas de vie en Israël. J'ai de la famille avec qui. J'échange pas assez et si peut-être l'envie me prenait d'aller en Israël, c'est souvent pour les voir, sauf quand c'est professionnel. Mais je vais pas régulièrement en Israël.
Quand on dit Yvan Attal, hein, on le voit franco-israélien.
Alors là-dessus,
je crois que ça vous énerve un peu, non ou pas?
Non, parce que c'est le cas.
Ouais.
C'est le cas. J'ai double nationalité.
Mais là, on insiste là-dessus.
Non, mais je vais vous dire pourquoi ça m'embête.
Ouais.
Ça m'embête parce que. Enfin, ça m'embête pas donc d'être un franco-israélien. Ce qui m'embête, c'est le moment où je suis devenu franco-israélien.
Voilà.
J'étais français. Même étant né à Tel Aviv, j'étais complètement français pour tout le monde. Et puis un jour, sur Wikipédia ou sur Google, quelqu'un m'a fait remarquer que j'étais devenu franco-israélien.
Oui, c'est ce qui est écrit sur Wikipédia.
Voilà. Mais avant que je fasse Ils sont partout, ce film.
2016.
Avant 2016, j'étais que acteur et réalisateur français. Et bizarrement, après, ils sont partout. Je suis devenu acteur et réalisateur.
Juif, donc franco-israélien.
Franco-israélien. Ouais. Ça veut dire que, en fait, un franco-franco ne peut pas parler des clichés antisémites, quoi. On ne peut pas parler d'antisémitisme. Si on parle d'antisémitisme, c'est que forcément, on a un rapport avec les Juifs ou Israël. Donc, cette façon de me montrer, que je me rappelais que j'étais israélien et donc juif, je suis pas naïf, m'a quand même embêté.
Il y a une connotation, mais en même temps, une connotation derrière.
Bah, complètement. Hein? Mais en même temps, je peux pas nier. Je suis franco-israélien.
Bernard-Henri Lévy déplore la, on en vient au 7 octobre, la solitude d'Israël face au monde, face à l'opinion mondiale, à la rue arabe et même aux démocraties occidentales. Vous avez assisté à la CPI, à la conférence qu'il a donnée autour de son bouquin. Et je vous voyais très attentif d'ailleurs avec votre compagne. Est-ce que vous partagez cette analyse de BHL ?
Complètement. J'ai toujours pas lu son livre, que j'ai, et que voilà, là, le travail fait qu'en ce moment, j'arrive pas à faire autre chose que d'apprendre mon texte. Mais j'ai très envie de lire son livre, et en même temps, comprenant de quoi parle le livre, je sais que je suis totalement d'accord avec lui, Israël est seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'entends notre ministre des Affaires étrangères séjourner, condamner Israël, vouloir boycotter, censurer, etc. En fait, les gens veulent imposer des choses à Israël, mais personne ne veut rien imposer au Hamas, quoi. C'est ça, cette solitude. En fait, elle est là. C'est que moi, je veux bien admettre que cette guerre pose des problèmes, que cette guerre n'est pas celle qu'on aurait souhaité. Mais quand on voit les réactions du monde, les gens sont hostiles à Israël et pas au Hamas.
Et aux Juifs.
Et aux Juifs. Ouais. Moi, qui j'ai toujours été à gauche.
Ouais, vous parlez d'ailleurs de votre père, vous disiez, bon, on en reparlera après.
Hein. J'ai toujours été à gauche. Et quand je vois un Glucksmann émerger, je rêve de pouvoir... partager ses idées, mais je ne l'entends condamner Israël et je ne l'entends jamais condamner le Hamas. Si, il condamne les pogroms, etc. Mais on veut aujourd'hui poser des ultimatums à Israël, comme si cette guerre n'était pas juste, mais que les gens nous expliquent comment il faut la mener, cette guerre.
Y compris quand l'Iran attaque Israël. Hein.
Mais bien sûr, mais expliquez-nous. Alors là, il y avait quand même une coalition, tout le monde quand même...
Il faut se calmer, voilà.
Oui, mais parce que c'est l'Iran, c'est les Mollahs, etc., etc. Mais le Hamas, c'est exactement la même chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je veux bien comprendre que cette guerre est compliquée, je l'admets. C'est terrible de voir autant de morts civiles, même si on peut... Et il serait temps de contester le nombre annoncé du ministère de la Santé du Hamas. Rien que l'énoncé, pour moi, c'est une comédie.
Ça fait rire.
Le ministère de la Santé du Hamas, ça veut dire ce ministère qui a approuvé les pogroms, les viols, etc., etc. C'est quand même comique d'entendre des gens vous dire « selon le ministère du Hamas ». C'est une blague. Mais je ne sais même pas comment les gens ne se rendent pas compte. Ça veut dire ils sont aveuglés par leur antisémitisme. Mais donc, moi, je veux bien admettre que cette guerre est compliquée pour Israël. C'est difficile de la mener. Mais ils sont obligés de la mener aujourd'hui. Parce que moi, je n'ai jamais compris, depuis toutes ces années, de supporter toutes ces roquettes envoyées de Gaza sur Israël, visant des civils. Ça n'a jamais ému personne.
Bon. Et on disait, il n'y a pas de victimes, c'est le dôme de fer. C'est la technologie israélienne qui a sauvé les
Israéliens. Parce qu'Israël protège sa population. Voilà. Hein. Contrairement au Hamas, ça m'embête de le redire, mais enfin, contrairement au Hamas qui se sert de sa population, tout le monde le sait. Après, est-ce que les gens ne veulent pas voir ou ne voient pas? Je ne comprends pas. Mais donc, tous ces civils palestiniens, c'est un drame.
Bien sûr.
Mais comment mener autrement cette guerre? Comment la mener autrement? Moi, j'aurais rêvé que les gens suivent Macron, ou que lui-même se suive lui-même, quand il parlait d'une coalition contre le Hamas. En réalité, cette guerre, c'est pas à Israël de la mener. C'est au monde de la mener. Le Hamas est un mouvement terroriste. Ça veut dire que Israël est parti de Gaza, a rendu Gaza, qui n'était même pas un territoire palestinien. Gaza, c'était l'Égypte.
Qui s'en est débarrassé, hein, il n'en voulait plus.
Non, mais c'est même pas un territoire palestinien. Moi, d'ailleurs, il faudrait qu'on m'explique réellement ce qu'est la Palestine. Je pense que si un jour il doit y avoir la paix, il faut revenir, j'assume de dire ça, sur les frontières d'avant 67. Tout le monde dit l'occupant parce que les frontières depuis 67, mais On a abusé des Juifs et d'Israël. Après la Shoah, on leur a donné une misère. Mmh. On nous a donné un dixième de notre... Un dixième, un vingtième.
C'est-à-dire, vous êtes pour le grand Israël ?
Je ne suis pas pour le grand Israël. Ouais. Je suis pour un État palestinien. Mmh. Mais un État palestinien juste avec un État israélien juste. Ça veut dire Jérusalem qui n'est pas israélien, ce n'est pas juste. Mmh. Qui colonise ? Qui a construit une mosquée sur un temple ? C'est quand même clair. Mmh. Donc, qu'on arrête de nous raconter des histoires.
On l'a oublié. Enfin, certains, beaucoup l'ont oublié.
Oui, mais on oublie beaucoup de choses. On oublie, on voit pas. Ouais. Donc, moi, je veux bien qu'on revienne sur un partage. Ce partage que les Israéliens de l'époque, les Palestiniens juifs de l'époque, ont accepté pour en faire Israël, ils ont accepté la
mendicité. Parce qu'on rappelle, à l'époque, les Palestiniens, les Arabes l'ont refusé.
On leur a donné une pièce aux Juifs palestiniens qui ont accepté cet état de rien du tout. Normalement, ça aurait dû être autrement plus grand. Et la Jordanie doit jouer un rôle aussi. La plupart des Palestiniens sont des Jordaniens.
Shimon Peres, son grand rêve, c'était une confédération jordano-palestinienne.
Mais
a priori...
Oui, mais c'est impossible. Aujourd'hui, je peux imaginer que la Jordanie, il faudrait que le monde aussi regarde. Il y a peut-être des territoires. Il y a un arrangement à faire dans toute la région. Mmh. Tout n'est pas de la responsabilité d'Israël.
Et d'ailleurs, le 7 octobre, c'est aussi parce que pourquoi l'Iran a déclenché 7 octobre parce que les accords d'Abraham, ils permettaient d'arriver à un accord de paix entre Israël et l'Arabie Saoudite.
Absolument,
et
absolument. Ça aussi. Mais il y a quand même ce problème palestinien qu'il faut régler et il faut comprendre.
Et ça, il faut le dire, bien entendu.
Mais c'est pas qu'il faut le dire, c'est que moi, je le sens comme
ça. Oui, bien sûr. Non, mais il faut.
Moi, je vais vous dire, contrairement à des gens qui manifestent dans la rue tous les jours en ce moment pour les Palestiniens, moi. J'y pense tous les jours de ma vie depuis que je suis né. Mmh. Il y a rien qui me comblerait plus de bonheur, à part un enfant médecin, que de voir un jour un État palestinien.
Parce que vous avez le culte de la vie et pas le culte de la mort.
Oui.
Et la guerre, les morts, ça suffit.
Ça suffit, mais la guerre a jamais été une chose qu'on souhaite. Mais en revanche, on peut pas se laisser faire. Mmh. Et quand les gens demandent à Israël de cesser le feu, moi, j'aimerais bien qu'ils précisent qu'on cesse le feu si le Hamas rend les armes et si on libère les otages. Mmh. Mais je ne les entends pas.
On sait même pas combien il y a les otages.
C'est ça qui rend dingue. Ouais. Ça rend dingue d'entendre le monde dire oui, le 7 octobre, c'est des pogroms, mais en même temps, refuser donc à Israël le droit de se défendre. Mmh. Et si Israël, malheureusement, fait un peu trop de victimes collatérales, il faut aider Israël à se bagarrer autrement.
La question qu'on peut se poser, c'est si en France, il y avait eu autant de morts suite à des attaques terroristes, qu'est-ce qui se serait passé ?
Mais il y a eu Mossoul, Raqqa, tout ça. On a bombardé, il y a une coalition qui a bombardé, qui a fait un tas de morts.
Ça aurait fait 10 000 morts en France. Qu'est-ce qui se serait passé ce jour-là ? On ne sait pas. Bref, en 2016, avec votre film...
On ne le souhaite pas.
Hein. Oui, on ne le souhaite pas, mais bon. Ils sont partout, vous aviez choisi l'humour. Pour dénoncer un antisémitisme déjà grandissant en 2016 et les nombreux clichés qui l'accompagnent depuis des millénaires. Depuis 7 octobre, l'humour, c'est compliqué. L'humour.
Bien sûr. Encore que on peut toujours faire de l'humour, on peut toujours essayer, on peut toujours... Mais moi, j'ai pas envie de rire de tout ça maintenant. Mmh. Ça suffit, quoi. Parce que même à l'époque où j'ai fait... Même si... Je considère que j'ai raté ce film.
Ouais, j'ai entendu que vous avez dit ça.
Oui, parce que bon, et en plus, pour moi, c'était pas un film comme j'ai fait Les choses humaines, un coup de dé. En termes de cinéma, c'est moins important. J'avais envie de dire quelque chose. Mmh. Et je crois que.
Mais c'était un beau film.
Bah, tant mieux si vous l'avez aimé. Il y a d'autres gens, d'ailleurs, qui l'aiment. Moi, je considère qu'il est raté. Mais il y a déjà, donc, 8 ans, en 2016, on m'a fait chier avec ce film.
Ouais.
On m'a reproché des choses et j'ai.
Je crois
presque...
que vous avez dit, à l'époque, que vous étiez un juif angoissé d'être juif.
Mais qui est un juif pas angoissé d'être juif ?
Et aujourd'hui,
qu'on me le présente,
et aujourd'hui, 8 ans après, toujours ?
Mais bien
encore
sûr.
Encore plus, je
encore plus. C'est hein c'est...
Comment vous le dites ?
Enfin, c'est pas que je suis angoissé d'être juif, parce que je suis juif. Mmh. Je vais pas changer demain, quoi. Ouais. Encore que j'ai le droit, je pourrais, etc. Mais c'est pas un plan que j'ai pour l'instant. Non, mais c'est dur d'être entendu. C'est dur d'être victime d'antisémitisme tous les jours de sa vie.
D'ailleurs, je vais vous demander, vous l'avez connu, vous l'avez croisé l'antisémitisme ?
Oui.
Y compris dans votre profession ?
Oui.
Hein ?
Oui.
Des collègues, oui. Des acteurs, des artistes.
Non, pas des acteurs, des artistes peut-être. Et puis j'ai vu, moi je suis pas sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même des captures d'écran qui ont été faites, etc., où j'ai vu des choses de certains acteurs et actrices que je soupçonne de pas être tout à fait.
Vous pensez à quoi?
Clair et net.
Je sais pas si vous pouvez le dire. Mais
non, j'ai pas envie de de parler d'eux sans qu'ils soient à côté de moi. Ouais. Voilà, mais c'est pas du tout une peur de quoi que ce soit. Si je les croise, je leur en parlerai ou pas d'ailleurs, parce que je pense qu'en réalité, je vais vous dire une chose. En réalité, moi, je crois que ça sert à rien. Moi, pour moi, ce qui compte, c'est qu'Israël se débrouille tout seul, que Israël arrête d'écouter les uns et les autres, et qu'Israël se défende. C'est tout ce qui compte. Et que le jour où il y aura la sécurité en Israël, il y aura la sécurité à nouveau pour les Juifs du monde entier. Avant le 7 octobre, on était tranquille.
Parce qu'avant le 7 octobre, Israël, c'était un pays refuge.
Voilà.
Aujourd'hui, c'est plus compliqué.
Donc, à partir du moment où Israël est en danger, les Juifs du monde entier sont en danger. Donc, pour moi, il y a une chose qui compte, c'est que, qu'on retrouve la sécurité en Israël. Et ils sont obligés de faire un certain nombre de choses. Malheureusement, on s'en passerait bien. Mais c'est comme ça.
Vous le sentez plus juif depuis le 7 octobre ou pas?
On me fait remarquer tous les jours de ma vie que je suis juif, quoi. Donc moi j'oublie des fois que je suis juif. Hein, je me lève pas le matin en disant, puisque je ne suis pas religieux, je me lève pas tous les jours en faisant la prière toute la journée, matin, midi et soir. Donc j'oublie que je suis juif de temps en temps quand même.
C'est vrai qu'être juif, c'est pas forcément être religieux.
Non.
Il y a peut-être 80-90% des juifs qui le sont pas.
Ça, je sais pas, mais c'est pas une tare d'être religieux non plus.
Non, c'est pas une tare non plus.
Mais c'est pas mon truc. Donc, moi, j'oublie que je suis juif de temps en temps, mais on me le rappelle.
Cette guerre d'Israël contre le Hamas, une guerre, comme le dit BHL, existentielle, elle a eu des conséquences en France. Elle a des conséquences en France, c'est-à-dire une explosion de l'antisémitisme véhiculée par la gauche de la gauche, par LFI, sous couvert d'antisionisme. Qu'est-ce que ça vous inspire? De voir des partis politiques, vous qui venez de gauche. Hein, vous avez dit que votre père, il vous avait transmis ses valeurs de gauche, justement. Hein, et ses valeurs républicaines.
Ce qui est terrible, c'est comme tout ça, depuis tout. Le monde s'est retourné, on marche sur la tête. Ça veut dire que de voir l'extrême droite qui défend Israël et les Juifs, c'est une aberration pour moi.
Ouais, ça fait bizarre.
Quand même un peu, hein. C'est quand même un peu étrange. Et de voir tout ce qui se passe, et de voir que la victime devient le coupable, que le coupable devient la victime, tout est à l'envers. C'est comme un cauchemar, quoi. Qu'est-ce que ça m'inspire? Je sais plus que
c'est ce par rapport à l'antisémitisme qui vient de la gauche.
Oui, l'antisémitisme aujourd'hui virulent est à gauche, mais ça fait un moment déjà.
Et c'est pour ça que vous avez dit, on assiste à une orgie d'antisémitisme.
Depuis le 7 octobre, c'est quand même délirant. Les actes antisémites ont augmenté de combien?
1000 et quelques pourcents.
Ça devient délirant. C'est une orgie d'antisémitisme. Tout le monde s'en donne à cœur joie, quoi.
Tout le monde, c'est-à-dire?
Dans les facs, les étudiants, les gens, c'est de tous les côtés. On profite de tout ça pour. Mais moi, j'ai jamais pensé que le conflit israélo-palestinien était autre chose que de l'antisémitisme. Hein. C'est pas une question territoriale. Donc c'est pour ça, en réalité, quand les gens disent « mais c'est quand même étonnant de voir toute cette jeunesse qui s'émeut pas pour le problème des musulmans, les Ouïghours, les au Soudan, et machin, etc. Ben » non, mais évidemment, évidemment, il y a un antisémitisme clair et net. Là-bas, on n'importe rien. C'est le même conflit.
D'ailleurs,
c'est l'antisémitisme.
L'ambassadeur Gérard Haro, qui était l'invité il y a quelques semaines ici, il dit « Israël, c'est le juif des nations. »
Ah, ouais, peut-être.
C'est ce que disait aussi, on le dit depuis des années, mais c'est ça. Le juif des nations, l'antisémitisme, c'est ça.
L'antisémitisme, je veux dire, les problèmes d'Israël ou les problèmes des juifs de France, c'est le même. C'est la haine des juifs, c'est tout. Ce serait quand même, si c'était honnêtement, ayons un tout petit peu de bon sens, soyons simples. Si c'était une question de territoire, Israël est tout petit. Les Palestiniens ne demandent pas un grand État. Si les gens avaient un vrai désir de paix, quoi, ce serait facile de faire un partage. Ce serait simple si c'était qu'une question de terre et de territoire. Il y a dans cette région un petit caillou juif au milieu d'un monde arabe qui a la haine des juifs. That's it.
Vous dites le monde arabe a la haine des juifs?
Ouais.
Hein?
Oui.
La rue arabe a la haine des juifs?
Bien sûr.
Hein?
Oui.
Il y a un antisémitisme musulman que vous déplorez?
Absolument. Et pour en avoir rencontré un certain nombre qui m'ont avoué leur antisémitisme structurel ou d'entendre leurs parents dire des choses sur les juifs, etc. Alors eux ont fait un chemin, heureusement, eux ont fait un chemin, mais il y a énormément de gens qui ont grandi dans l'antisémitisme. J'ai eu un distributeur d'un de mes films, je dirais pas qui, pas citer son nom parce que je sais pas, mais qui me l'a avoué. Il m'a avoué en me disant, bah oui, moi j'ai grandi dans une famille où on considérait les juifs comme ci ou comme ça, devant témoins.
Et ça explique d'ailleurs aujourd'hui ce qui se passe à LFI, faire de la Palestine le centre de la campagne européenne.
Il sait ce qu'il fait, Mélenchon.
Mélenchon
hein,
qui multiplie les déclarations antisémites, on va dire. Hein.
Il n'est pas idiot, enfin il est totalement crétin de faire ce qu'il fait, mais il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait.
Il est vrillé, il est fou, il est antisémite.
Bah, c'est difficile aujourd'hui de ne pas imaginer qu'il se soit alors pris au jeu s'il se défend d'être antisémite. Il n'y a qu'à le voir, sa tronche, et de voir la haine qui l'anime, la haine qui transpire de tous les, de tous ses pores pour ne pas penser qu'il n'a pas un tout petit peu d'antisémitisme en lui.
Mélenchon.
Hein ?
Et vous qui venez de la gauche, ça va vous faire mal.
Mais bien sûr.
Ouais, c'est pas votre gauche.
Mais je vais vous dire, en fait, c'est ça l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est de faire de moi un étranger dans mon propre pays. En fait, je vais vous dire une chose. Je sais plus pour qui je dois voter. Je sais plus qui.
D'ailleurs, vous allez voter ?
Je sais pas.
Aux européennes ?
Je sais pas. Je sais plus pour qui voter. Je ne peux plus regarder le football puisqu'ils sont tous anti-israéliens, anti-sionistes. Ils se drapent du drapeau palestinien dans les stades. Le Paris Saint-Germain est financé par le Qatar. Donc, je ne peux plus être moi-même.
Ouais.
Je ne peux plus partager des choses avec d'autres Français parce que je sais que à des endroits, on veut me couper la tête. C'est quand même fou de ne plus être moi-même tous les jours de ma vie dans mon propre.
Mais
bien sûr que ça pèse.
Ça pèse.
Mais bien sûr.
Et vos enfants, pareil?
Je pense que ça pèse moins pour mes enfants parce que je crois qu'ils sont encore jeunes, parce que je crois qu'ils sont encore angoissés par eux-mêmes, que les jeunes aujourd'hui sont angoissés par un tas de choses, il faut qu'ils se construisent. Donc il y a, mais bon, ils sentent bien ma fille qui va repartir à New York pour entrer en fac. Je pense qu'elle sait ce qui l'attend.
Votre compagne, Charlotte Gainsbourg.
Oui.
Elle ressent les mêmes choses que vous.
Je crois, il faudrait lui demander. Non mais j'aime pas parler des autres.
Oui, d'accord.
Et surtout en leur absence.
Ouais.
Mais ce serait difficile de rester avec quelqu'un qui partage pas le même avis sur des sujets.
Non mais je vous pose la question
parce qu'ils sont pour moi existentiels quoi.
Ouais. Autre question qui n'a rien à voir. Quand on a le même nom que le Premier ministre. Ça change la manière de voir la politique, Yvan Attal ou pas?
Non, mais c'est
parce qu'on a dû vous le dire, vous êtes de sa famille.
Bah oui, hein, au moment où il a été nommé Premier
Gabriel
ministre,
Attal. Ouais.
Évidemment, tout de suite, on m'a posé la question. C'est amusant en même temps. Alors, en même temps, c'est chiant quand même. C'est chiant de voir. Avant, je voyais Attal dans le journal, dans le truc, quand on parlait de moi.
Ouais.
Maintenant, je vois Attal toute la journée, donc c'est quand même un mot. C'est même plus mon nom, c'est un mot qui me saute aux yeux.
Et alors,
à chaque fois que je le vois écrit quelque part.
Ça vous plaît ou ça vous dérange?
Non, ça m'emmerde.
Ah, oui.
Parce que moi, j'ai pas le réflexe. Je crois qu'on parle de moi. Donc et puis tout d'un coup, je réalise qu'il y a quand même un Premier ministre.
Et vous rendez compte si vous appeliez Gabriel?
Alors là, il y a peut-être un autre Gabriel.
Ah, il y en a ici à Radio J, un Gabriel.
Ah bon, bah,
un Gabriel Attal. Voilà. Ouais. La France et les valeurs de la République, qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que l'émission s'appelle Les enfants de la République.
On est totalement, je vous le dis, je suis un Français républicain, je suis fier d'être Français, je suis heureux d'avoir grandi ici, et je suis heureux les rares fois où je vais à la synagogue de faire une prière pour la République française. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, j'ai grandi justement dans une famille où c'était important la France, c'était important. D'ailleurs, je me souviens, quand j'ai fait ma bar mitzvah,
là, vous l'avez faite?
Oui, bien sûr.
Mmh.
Non, je vous ai dit, c'est une famille traditionnaliste.
À Créteil, donc.
À Créteil. Quand j'allais au Talmud Torah, un jour, me prenant au jeu, donc avant 13 ans, un jeune adolescent, je suis rentré chez moi avec la kippa sur la tête. Et mon père m'a regardé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec la kippa sur la tête? T'es rentré avec cette kippa sur la tête. Et il m'a donné ma première leçon de laïcité. Sans violence, sans rien. Il m'a expliqué que la religion, c'était une chose personnelle, intime, et que dans la rue, on est comme tout le monde.
Mmh. Alors, derrière question, un spectacle, un film, ça appartient ensuite, quelque part, à la mémoire collective. Vous appartenez, Yvan Attal, à la mémoire collective des Français. Est-ce que vous l'imaginiez au début de votre carrière?
Bah, bien sûr que non. On n'imagine rien du tout. On rêve.
Mmh. Et comment vous le vivez aujourd'hui?
Bah, vous savez, quand je jouais au théâtre, l'hiver dernier, on a joué une centaine de fois. Au bout de 60, 70 fois, on en a marre. Il faut y aller à l'heure où les autres sortent, où ma femme se met à table avec mes enfants, et moi, il faut que j'aille au théâtre, etc. Donc, il y a un moment où on a un peu marre. Et puis, quand j'arrivais au théâtre le soir, et que je voyais Théâtre Antoine, je me disais, quand j'avais des 16, 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans, je rêvais de ça. Mmh. Je rêvais de ça. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est là, et du coup, je ne pouvais plus râler. J'allais jouer avec plaisir, mais à chaque fois que le matin je me réveille pour aller travailler, pour aller sur un plateau de cinéma, que je regarde la caméra, les projecteurs, les travelling se mettre en place, les gens, la régie, le petit café, tout ça, je réalise le bonheur que j'ai d'avoir eu la chance de pouvoir faire ce métier que j'avais envie de faire.
Merci en tout cas Yvan Attal. Avant de conclure, je rappelle que vous êtes depuis le 24 avril à l'affiche du film Frère d'Olivier Casas. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci d'avoir participé à cette émission.
Merci à
Bonne
vous.
Bonne fin de journée sur Radio J. À dimanche prochain.
Merci.
Radio J. Eva Soto, les infos week-end. Radio J.
Bonjour, à la une de l'actualité, le 205e jour de guerre contre le Hamas et le groupe terroriste qui publie une nouvelle vidéo d'otage, un film où apparaissent Keith Siegel, citoyen américain de 64 ans, et Omri Miran, 47 ans, dans ce film scénarisé par le Hamas. Les deux otages plaident pour que les manifestants israéliens qui protestent contre le gouvernement Netanyahou le fassent tomber. Sur les 133 otages détenus dans la bande de Gaza, seuls 95 seraient encore vivants. En Israël, les manifestations hebdomadaires pour la libération des otages et de nouvelles élections. Manifestation à Césarée hier soir près du domicile du Premier ministre israélien. Manifestation similaire à Tel Aviv avec des milliers de personnes ou encore dans le nord à Pardes-Hanakarkour près de Hadera. Sur le front nord, de nouvelles attaques du Hezbollah dans la nuit, 26 roquettes tirées contre Israël. Le ministre français des Affaires étrangères sera au Liban aujourd'hui. Stéphane Séjourné présentera des propositions pour éviter une guerre entre Israël et le Hezbollah qui est soutenu par l'Iran. La proposition de la France a été discutée avec ses partenaires, notamment les États-Unis, mais n'a pas progressé pour l'instant. Une flottille pour Gaza bloquée en Turquie. La Guinée-Bissau refuse son pavillon aux deux navires de cette expédition. Acheminer davantage d'aide à Gaza, c'est le but de la construction d'un site sur les côtes du territoire. Un projet porté par Jérusalem et Washington. Saal et le ministère israélien de la Défense ont diffusé hier les images des travaux en cours de ces fameux quais flottants. Le but est de permettre à plus de navires d'amarrer pour acheminer des aides par voie maritime. En France, après la fin du blocage de Sciences Po Paris, le Premier ministre affiche sa fermeté. Il n'y aura jamais de droit au blocage, jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante et dangereuse, a affirmé Gabriel Attal. Des étudiants soutenus par la France Insoumise ont organisé des blocus à Sciences Po pour réclamer notamment la fin des partenariats avec des entreprises et établissements israéliens.
Radio J.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, Divertissement, Communauté.
Radio J.
Radio J. Radio J.
Affaires publiques, Alexis Lacroix.
Radio J.
Radio J.
Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, Moadim Les Simra. Nous avons le plaisir, en ce vendredi, de recevoir une écrivaine, Isabelle Debray. Elle signe Dans l'ombre, aux éditions du Mercure de France. Vous allez tout de suite découvrir de quoi il s'agit. Je crois que c'est une première pour vous, Isabelle.
Ah oui.
Et vous êtes l'auteur, je le disais, d'un récit très pudique, assez elliptique, évidemment tout à fait déchiffrable et compréhensible. Il s'appelle « Dans l'ombre » aux éditions Mercure de France, tout un programme. Alors, c'est vrai que Être une femme de l'ombre ne veut pas dire être, ne pas être une femme qui prend la plume et qui parle à la première personne. Vous parlez à la première personne, bien sûr. Votre récit très pudique, je le disais, elliptique, avec une stupéfiante économie de moyens, n'en est pas moins incroyablement remarquable et efficace. Il célèbre un homme, un grand intellectuel de notre temps, un intellectuel de grande envergure, on pourrait dire de grande envergure internationale. Pourquoi avoir choisi Isabelle Debray, la forme d'un récit pour évoquer cette affinité élective, aujourd'hui déjà ancienne, dans votre existence?
La vérité, c'est que je ne parle pas d'affinité élective puisque je ne parle pas de moi. Donc jamais, je veux dire, sauf la première page et c'est tout. Autrement, le reste du temps, je parle de tous les amours anciens de Régis qui sont toujours présents et toujours, puisqu'il est un grand fidèle, avec son infidélité, à travers tous les livres qu'il a écrits.
Alors justement, Isabelle Debray, l'une des particularités de Dans l'ombre, c'est que vous rendez un hommage à ce grand intellectuel, ce grand écrivain français, Régis Debray, mondialement connu, on va y venir. Vous évoquez notamment, dans votre récit, Dans l'ombre, aux éditions Mercure de France, je cite, sa mémoire, sa ténacité, ses engagements. C'est ce triptyque de qualité, sa mémoire, sa ténacité, ses engagements, qui pour vous le définit le mieux sa personnalité, publique, mais aussi peut-être privée, Isabelle Debray.
En tout cas, à travers tout ce qu'il a écrit depuis si longtemps, depuis 1970, son premier livre, ça s'appelait La Frontière, c'était une petite nouvelle. Et jusqu'à aujourd'hui, il est d'une grande ténacité, puisque 70, La Frontière, puis après l'éloge des frontières dans les années 2000, 20 même, je crois. Donc ça, c'est la ténacité. La mémoire, oui, il a une grande mémoire de tout ce qu'il a vécu et de tous ses engagements que vous connaissez, même si aujourd'hui, il s'est un peu dégagé, mais de toute la actualité politique, sociale, mais qu'il reste très attentif malgré tout.
Ouais. Alors c'est intéressant parce que spontanément, vous m'avez répondu sur la question de la frontière. Vous pensez que c'est un des fils rouges de sa réflexion, réfléchir sur la nécessité des frontières, mais aussi sur la nécessité de les traverser, de les franchir, ce qu'il a fait lui très tôt dans sa vie.
Oui, tout à fait. La frontière, il a beaucoup, beaucoup écrit sur la frontière. Mais je dirais que ses engagements, c'est aussi la religion, c'est aussi la politique, c'est aussi les combats, c'est aussi la révolution. C'est beaucoup de pays qu'il a traversé.
Ce qui le caractérise parmi les intellectuels français, vous y rendez hommage dans l'ombre aux éditions Mercure de France, c'est votre mari, chacun l'a compris, et c'est le père de votre fils aussi, on y viendra sans doute. Ce qui le caractérise, c'est un certain internationalisme. Comment est-ce qu'on peut définir justement l'internationalisme de ce jeune homme de la bourgeoisie qui, dès les années 60, rejoint les révolutionnaires latino-américains avec lesquels il ne cessera d'entretenir de durables et fraternelles relations, Isabelle Debray?
Alors, il y a un moment donné, vous m'avez demandé si c'est les livres, c'était parce qu'il a voyagé à travers les livres.
Disons que son savoir du monde est d'abord livresque, mais en même temps, il choisit un jour, à un moment, de le confronter à la réalité. Il va sur le terrain, pour le dire autrement, très jeune, à l'âge de 20 ans.
Oui, mais c'est un livre qui l'a emmené sur ce terrain. C'est Le siècle des Lumières d'Aléro Carpentier. Donc c'est déjà au départ un livre.
Alors on va revenir évidemment sur ses engagements, mais au passage, évidemment, vous le notez sans les nommer, mais il y a évidemment en Amérique du Sud, depuis ces années 60 qui ont été fondatrices pour lui, il y a des amis qui sont dans le paysage intellectuel, on va dire important du monde latino-américain, du monde méso-américain. On pense notamment à Gabriel Garcia Marquez et à Julio Cortázar. Ils ont compté dans sa vie, c'est le moins qu'on puisse dire, ces deux grands écrivains contemporains.
Tout à fait, ils ont vraiment compté dans la vie, oui, dans la vie de Régis.
Alors, vous le dites.
Pablo Neruda, oui.
Ah, et Pablo Neruda également, donc grand poète chilien communiste. Comment vous résumeriez justement ces amitiés-là?
Régis est un homme très très fidèle, donc toutes ses amitiés sont toujours existantes aujourd'hui. Et il l'a prouvé dans son dernier livre.
De vivant pilier ou de
voilà,
vivant pilier.
Ou de vivant pilier, ouais.
Ouais, voilà. Absolument. Et d'ailleurs, le choix a pu en déconcerter certains, de Grac à Céline, etc. Bon, il a dit qu'il se centrait sur le domaine français. Alors, il y a une dimension d'universel.
Moi, je suis juste pas jalouse et j'aime les autres.
Alors, justement, j'allais vous poser la question. Voilà, j'allais vous poser la question parce que ça affleure évidemment à de nombreux moments du livre. Vous décrivez ce jeune homme romantique, ce blondinet qui a voyagé à travers les livres. Vous le décrivez aussi comme un grand séducteur, un grand amateur de femmes. Est-ce que, au fond, votre récit peut être lu aussi comme une façon de dépasser, de surmonter, de métaboliser et peut-être aussi de sublimer, au sens le plus freudien du terme, cette question qui se pose naturellement, qui est la question de la jalousie?
Oui. Ouais, moi je trouve que être jaloux c'est dommage, ça nous fait fermer les yeux sur plein de choses.
Et ça alors, ça plus, fait fermer des yeux sur quoi justement, surtout, Isabelle Dobray?
Ouais, surtout ça nous permet pas de connaître bien l'autre, de connaître les autres, de connaître les gens qui l'ont aimé et qui l'aiment encore, parce que quand on aime quelqu'un, on l'aime jusqu'à la fin de sa vie. Et puis être jaloux du passé, ça me semble complètement idiot. Donc voilà. Mais je ne parle pas que de ces femmes, je parle aussi de tous ces voyages. Et Régis a fait énormément de voyages. C'est un jeune Français cosmopolite. Hein. Il est allé à la recherche des religions à travers l'islam, l'Asie, la Chine, Israël. Enfin voilà, il a voulu connaître toutes les religions pour un homme qui ne croit pas vraiment, donc c'est quand même intéressant.
Alors justement, c'est vrai, vous avez absolument raison, c'est une curiosité tous azimuts, si je vous comprends bien, qui le guide et qui serait une de ses caractéristiques, hein, de ses marqueurs. Vous y insistez beaucoup, hein, dans l'ombre, il y a la dimension de la séduction mais aussi la dimension de la curiosité, une curiosité presque gargantuesque, si vous m'autorisez cette expression. Isabelle Dobray, est-ce que vous êtes tombée amoureuse, quand vous l'avez rencontrée, de ce rapport très romantique à sa propre existence?
Non, je vais vous avouer quelque chose, je ne savais pas qui était Régis Dobray quand je l'ai rencontré. Moi, je suis tombée amoureuse du petit Jules Dobray, je veux dire, je suis tombée amoureuse de l'être. Je ne savais pas du tout qui il était, je ne connaissais pas du tout ça, le Tché, l'Amérique latine, Régis Dobray, tout ça, absolument pas, je ne suis pas du tout une intellectuelle. Donc je suis tombée amoureuse de l'homme, mais voilà, de celui que personne ne connaît finalement.
Quelles sont les qualités justement qui vous ont touché chez lui, Isabelle Dobray?
Ben, c'est tout ce que je décris dans le livre.
Ouais.
Voilà, sa fidélité, son humour, sa gentillesse, c'est tout ça. Moi j'ai découvert petit à petit qui il était, parce que j'ai tapé, son premier livre que j'ai tapé c'est Loué soit nos seigneurs, donc obligatoirement du coup j'ai découvert un truc.
Loué soit nos seigneurs qui est une partie de son autobiographie, hein, pour résumer, ouais. Voilà. Et alors, voilà, à un moment,
que j'ai tapé, donc,
alors à un moment, évoquons l'homme, hein, et pas seulement la figure publique que chacun d'entre nous a en tête. Vous écrivez, il ne s'aimera pas, il se rêvera.
Il vous l'a jamais dit ça? C'est pas quelqu'un qui s'aime, je veux dire, c'est quelqu'un qui aime les autres, et il s'est rêvé. Bah, vu son parcours politique révolutionnaire, on peut dire qu'il a grimpé les marges du pouvoir.
Alors absolument, vous avez absolument raison, il a un rapport à sa propre personnalité, ça commence par sa voix d'ailleurs, je crois qu'il a souvent dit « je n'aime pas ma voix », etc. Et donc son amour des autres, sa curiosité pour le monde, est, j'allais dire, inversement proportionnelle au peu d'estime qu'a priori il se voue à lui-même. Vous avez absolument raison.
Tout à fait, il a de l'estime pour les autres, c'est pour ça, c'est quelqu'un qui sait écouter, il pose des questions. Voilà, il ne parle pas de lui, il pose toujours des questions aux autres. Ça, c'est formidable, parce qu'en général, les gens, ils parlent d'eux, moi, pas lui.
Et c'est ça qui le rendrait inclassable, pour reprendre le terme que vous utilisez, Isabelle Dobray?
Non, inclassable, ça a à voir avec ses livres, parce que Régis, il parle un peu, enfin, je veux dire, il saute d'un domaine à l'autre. Il a fait des livres sur l'art, sur la politique, la médiologie, littérature, roman, religion, il a même fait des pièces de théâtre. Donc quand vous allez dans une librairie, vous ne trouvez pas Régis Dobray dans un domaine. Il faut aller un peu partout dans la librairie pour voir où il est inclassable.
Alors je rebondis justement sur cette qualification d'inclassable. Alors justement, qu'est-ce qui serait singulier chez lui dans le paysage abondant, des intellectuels français, du présent comme du passé. Qu'est-ce qui le singulariserait par rapport à tous les autres intellectuels que nous connaissons? En gros, s'il faut faire très vite, hein, de Julien Binda à Luc Ferry, la France abonde en intellectuels et en générations intellectuelles. Ça serait quoi la singularité de Régis Debray?
Je ne sais pas. Je crois que c'est à vous de répondre à ce genre de questions.
Et vous vous êtes pas posé la question?
Non, jamais.
Ah oui, d'accord. Bah, vous essayez d'y répondre, alors.
Je ne me suis jamais posé cette question. Je veux dire, elle ne m'intéresse pas du tout. Je veux dire, non, je...
Ah, je suis désolé. Bon, alors, il est
non,
allé...
Non, ne soyez pas désolé, mais je veux dire, c'est vous qui savez répondre à ce genre de questions, pas moi. Je ne suis pas... Non, non.
Il est allé, écrivez-vous, chercher le combat que la vieille Europe ne pouvait lui fournir. Vous faites référence, donc, à ce début des années 60. Au fond, il étouffe un petit peu dans sa génération normalienne, dans le Paris de l'époque. Nous sommes dans les années 60, gaullisme triomphant, etc. Et...
Bah, c'était l'époque où on choisissait entre l'Algérie ou l'Amérique latine. Lui, il a choisi l'Amérique latine, mais comme je vous l'ai dit, c'est le siècle des Lumières d'Alero Carpentier qui l'a amené jusqu'en Amérique latine.
Et qu'est-ce qui lui a plu, justement, dans ce grand roman d'Alero Carpentier que nous évoquons depuis tout à l'heure, le siècle des Lumières, Isabelle?
Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Je pense qu'il l'a déjà dit plusieurs fois dans ses livres, mais je préfère ne pas dire n'importe quoi. En tout cas, c'est ce qu'il a porté. Peut-être la beauté des femmes, parce que le livre est très érotique sur les femmes.
Le livre est très érotique sur les femmes, et d'ailleurs, vous le notez vous-même à un moment, et c'est intéressant, parce que ça n'est pas l'idée que... Une partie du grand public peut-être se fait de lui. Vous savez, évidemment, les images sont très réductrices, surtout dans notre époque, hein, où il y a des logos qui correspondent à chaque individu. Et vous le connaissez évidemment par cœur, et vous soulignez sa très grande sensualité. J'allais vous dire, pour le coup, c'est un peu contre-intuitif. Ce n'est pas l'image que beaucoup de nos auditrices, beaucoup de nos auditeurs ce matin sur Radio J ont peut-être de ce grand intellectuel.
Bah, écoutez, c'est dommage, c'est bien d'être sensuel. Mais c'était plus de l'époque, non? Aujourd'hui, on n'a plus le droit, que les hommes n'ont plus trop le droit à cette sensualité.
Et qu'est-ce qui relie, justement, d'après vous, ce que vous qualifiez de sensualité, à une extrême sensibilité également?
Sensibilité, dans quel sens, Alexis?
Bah, c'est probablement quelqu'un dont l'émotivité affleure, en fait. Enfin, en tout cas, vous travaillez dans votre très beau texte à révéler un pan de cet homme qui est aussi son extrême émotivité.
Émotivité, je comprends pas dans quel sens. Non, il est sensible. Hein. Il est sensible à tout ce qui se passe. Il a été sensible à tout ce qui s'est passé à travers le monde. C'est pour ça qu'il a écrit tous ces livres-là, qu'il a voyagé un petit peu partout. Voilà, mais je comprends pas la question, non.
Alors, je vais vous citer, vous allez comprendre, d'une désillusion à l'autre, jamais découragé, une affaire de passion et la mélancolie comme une fidélité sans amertume. Les formules sont très belles. Vous vous souvenez, chère Isabelle Debray, que qualifiant Charles Péguy, qu'il lisait, qu'il relisait en permanence, le critique littéraire allemand, voilà, Walter Benjamin, vous connaissez la formule, parlait d'une immense mélancolie maîtrisée. Est-ce que ce n'est pas un des secrets de Régis Debray que vous percez à jour dans ce récit, son immense mélancolie maîtrisée?
Oui, alors effectivement, ça lui convient très bien, cette phrase, immense mélancolie maîtrisée, qui aujourd'hui débouche sur de l'humour. Il a beaucoup d'humour, Régis. Et vous connaissez la fameuse phrase de Clive Marquez.
Rappelez-la nous.
L'humour, c'est la politesse du désespoir.
Mmh. Alors justement, voilà. Vous avez raison.
C'est Régis complètement.
Et alors son désespoir, si désespoir il y a, serait lié à quoi, justement, d'après vous, Isabelle Debray? Nous parlons de Dans l'ombre, votre livre événement.
Ouais, mais finalement, vous ne me faites parler que de Régis.
Ah, mais on parle de vous aussi.
Je vais l'inviter à Radio J, hein, parce que comme ça, il vous raconterait lui-même ce qu'il pense de lui.
Ah, on parle de vous aussi, hein, vous
non,
savez.
Non, mais de moi, c'est pas... Je veux dire, mais il a... Là, évidemment qu'il est désespéré, comment on ne peut pas, et c'est à travers tous ses livres, mais en même temps il a un humour fracassant, les derniers livres bref et le démontrent, le désespoir c'est sa porte, la mélancolie aussi.
Nous parlons de votre livre Événement dans l'ombre, c'est un très beau livre, et nous parlons du livre, hein, je vous rassure, chère Isabelle Debray. Alors justement, il y a une carte du tendre complexe, vous vous y inscrivez, vous vous y inscrivez comme une figure, un môle en quelque sorte de stabilité depuis longtemps. Vous avez fondé une famille, vous avez un fils. J'allais dire comment ça s'articule dans votre esprit, le fait d'être aussi en quelque sorte la continuation d'une lignée, d'une carte du tendre que vous évoquez. Alors j'allais vous dire avec une franchise assez déconcertante.
Mais je sais pas si je sais pas si je m'inscris dans une continuité.
D'accord.
En tout cas, toutes
d'accord.
les personnes dont
d'accord.
je parle, que je ne cite pas, font partie. Je les adore. Je veux dire, c'est des femmes ou des hommes exceptionnels. Et les voir avec Régis, évoquer le passé, se sourire, être encore amoureux les uns des autres, c'est formidable. On forme tout un bloc. Enfin, c'est non, voilà. Parce que je sais que vous voulez me faire parler de John, mais bon, voilà, il en a parlé dans. Je sais pas si vous avez lu ce magnifique livre qui s'appelle Jeunesse du Sacré, qu'il a publié en 2012. C'est comme un panthéon et elle en fait partie.
Oui, alors là, vous parlez de la chanteuse Joan Baez. Qu'est-ce qu'elle représente, justement, à vos yeux, à vous ?
Une femme formidable.
C'est-à-dire ?
Elle est gentille, elle est drôle, elle est spontanée et j'adore les voir ensemble. J'adore.
Ouais. Et qu'est-ce que représente Elisabeth Bourgos, puisqu'il y en est longuement question dans votre
récit ? La mère de sa fille.
Ouais.
Voilà.
Et pour
la
vous
mère de sa fille.
Là, nous parlons de
femme,
vous,
hein.
Isabelle Debray. Hein. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous aussi ?
Pour moi, elle représente la mère de sa fille, sa première épouse. Elle a été de tous les combats. C'est une vraie guerrière et elle est une femme extraordinaire.
Qu'est-ce qui définit justement une guerrière, selon vous ?
Toutes ces femmes qui ont combattu pour la liberté.
Vous êtes une guerrière, Isabelle Debray ?
Non.
Et pourquoi, justement ?
Parce que moi, je suis tranquille chez moi. Je suis une mère, je suis une maman, je suis pas une guerrière. Non, je sais pas ce que j'aurais été si j'étais née à leur époque, mais non.
Alors vous dites c'est intéressant parce que là, vous voyez, je vous cuisine un peu gentiment sur Radio J. Ce matin, Isabelle Debray, avec votre récit dans l'ombre, vous dites « je suis tranquille chez moi », mais en même temps, vous avez écrit ce récit. Forcément, quand on écrit, on se tourne vers un public d'anonymes, de gens qui vont peut-être vous acheter, vous lire, découvrir votre livre, aussi votre vision de votre intimité. Pourquoi vous l'avez fait alors ?
Pourquoi je l'ai fait ? Parce que j'ai eu envie de rendre hommage à toutes ces femmes. Voilà, je trouvais que c'était le moment de le faire, de leur rendre hommage et de dire qu'elles sont toutes des femmes formidables, même celles qui ne sont plus là aujourd'hui.
Et lesquelles ont particulièrement retenu votre attention dans cette vaste toutes. Constellation de fraternité amicale et amoureuse ?
Toutes. Toutes, je n'en mettrai pas une plus haut que l'autre.
Alors je sais que la question vous gêne, mais je vous la pose quand même, parce qu'après tout, elle se pose. Il y a évidemment l'évocation aussi, ce beau portrait de la mère de l'écrivain que vous dressez. Il y a une hypothèse, évidemment, que l'on peut quand même développer. Visiblement, celle-ci, assez tôt dans sa vie, l'a confiée à la garde du père, en tout cas c'est le père qui s'est occupé de lui plus que sa mère. Est-ce que d'après vous, il faut lire aussi la suite, c'est-à-dire son goût invétéré des femmes, à l'aune en quelque sorte de ce sentiment sans doute inaugural, primitif, très très ambivalent vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de l'amour maternel ?
Non, Jeannie n'était pas là parce qu'elle était entrée en politique très tôt, comme vous devez le savoir,
sénatrice. Sa députée. Mère s'appelait Jeannine Alexandre, hein, voilà.
Ouais. Mais elle a toujours été présente. C'était une mère, c'était une femme formidable, attentive, très généreuse et très gentille. Et d'après, je crois que ses parents ont été très présents pour sa libération en Amérique latine. Bon, mais c'est pas eux qui ont fait ça, mais voilà. Et donc, Jeannine était là. Après, c'est une époque. C'est une époque. On vit plus la même époque, hein. Régis, n'oubliez pas, il est né en 40, hein. Donc,
bien sûr.
1940, 1960, c'était une époque très libre, non?
Ah bah c'est évident, ce n'est plus l'époque d'aujourd'hui.
Alors, par rapport à aujourd'hui,
ouais. Isabelle, on a
un monde totalement différent.
Isabelle Debré, on a une conversation passionnante sur votre récit très intimiste, hein, disons-le clairement, Dans l'ombre, qui m'a beaucoup plu aux éditions Mercure de France. Nous parlons de vous.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre, Alexis?
Alors, ça c'est intéressant, vous renversez les rôles, mais je vais vous le dire, c'est que vous nous faites pénétrer dans une dimension d'intimité affective qui, justement, complique le portrait, la statue, si vous voulez, qui s'attache à l'image publique de votre mari. Et donc, c'est très intéressant, bien sûr, de comprendre le lien qui existe entre la personnalité publique, voyez, et l'homme dans sa dimension de plus grande intimité sensible, vous voyez, qui n'apparaît pas forcément dans l'image publique. Et donc, vous nous offrez un regard, justement, sur les coulisses, en quelque sorte, d'une image publique. C'est toujours riche, vous voyez, d'avoir ce regard-là. Parce qu'en plus, il est guidé par une extrême bienveillance. Hein, il ne s'agit absolument pas pour vous de vous livrer à on ne sait quel déballage. Vous voyez, donc c'est ça qui est très plaisant dans votre livre. Et puis, vous avez raison, vous rendez hommage à toute cette galaxie de femmes qui l'entourent. Alors, puisqu'il nous reste, en gros, une minute dans cette émission passionnante, chère Isabelle Debré, j'aimerais qu'on dise un mot également de sa fille, Laurence Debré. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Laurence Debré?
Mais je crois que je le mets dans le livre, non?
Bien sûr.
Je fais un portrait.
Un très beau portrait, oui.
Ben voilà. Donc si je fais un beau portrait, c'est que je la trouve formidable. Je trouve que c'est une grande femme, une belle femme.
Elle a consacré d'ailleurs également un récit, on peut dire comparable hein, par certains aspects à celui que vous publiez ces jours-ci. Qu'est-ce que vous en avez pensé de son récit?
Ben, écoutez, d'abord j'ai trouvé très bien écrit. Parce que je trouve qu'elle est vraiment douée. Et après, c'est son regard et son histoire. Donc, je l'ai trouvé très bien et très émouvant. Mais je ne peux pas en dire plus. Je ne connais pas bien. Enfin, si, je la connais, puisque je l'ai connue quand elle avait 20 ans. Donc, obligatoirement, je connais une grande partie de toute son histoire. Mais c'est ce qu'elle a ressenti, elle. Et donc, je ne le juge pas. Et je trouve que c'est très bien d'avoir écrit ça.
Alors, à l'encre sympathique, vous dessinez évidemment un portrait de l'homme de votre vie, mais aussi de la constellation amicale et amoureuse qui l'a entouré. C'est un portrait aussi, un beau portrait d'intellectuel internationaliste envers et contre tout. Je ne peux que recommander nos auditrices et nos auditeurs de se le procurer, de le lire hein, dans l'ombre. Nous sommes dans un va-et-vient entre, j'allais dire, le privé et le public. C'est ça aussi une des vocations de la littérature, n'est-ce pas, chère Isabelle Debré?
Oui, tout à fait. Mais tout ce que je dis est écrit dans ces livres.
Hein. Ah, bien sûr.
Il suffit de lire ces livres et je rajoute rien, finalement.
Absolument. et la conversation que nous avons eue ce matin, chère Isabelle Debré, permettra, justement, je pense, à beaucoup de nos auditeurs, de nos auditrices, de découvrir dans l'ombre, aux éditions Mercure de France. On vous souhaite, chère Isabelle, une très bonne fin de semaine.
Merci, vous aussi.
Shabbat shalom. Au revoir, Isabelle Debré.
Au revoir.
Ça, c'est uniquement sur Radio J.
Radio J.
Radio J. Radio J. La journée est belle. Vous écoutez Radio J.
Mon bébé, chazarnou la taouta zotopa. Aslero la mlotif tani et verati. Biglaze azati. Maintenant c'est fini entre toi et moi.
Vous écoutez
Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J.
ואם אתה לא מתכוון להרים לי תוריד את התמונות מהפיד ואם יש לך מה להגיד כפרה תגיד שירה לך ככה שאני בטוב ושאין לך בלילה את מי לאהוב אתה יודע שאין לך סיכוי מול הפה שלי מאמי כי אני חתולת רחוב
רדיו ז'י. écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Vous écoutez Radio J.
Radio J.
מתקדמים במהירות מהירה ומסתבר שככה גם השפיות מתחת אורך ציר ה-X ולעומק ציר ה-Y וואי וואי אני אדם חושב ואין לי מחשבה שתאיר אותי מעומק התרדמה